Stephen King aime les pères de famille, Stephen King aime le bonheur conjugal, Stephen King a écrit Bon Ménage et Peter Askin l'a adapté. Bienvenue au vidéo club de Castle Rock. Je suis toujours avec Chris. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes là pour parler de bonheur conjugal, de joie de vivre.
Super. Tu es en série.
Nous sommes là pour parler donc de Bon Ménage, une nouvelle publiée dans Nuit Noire Étoile Morte en 2010 aux États-Unis, 2012 en France.
Longue nouvelle.
Et une longue nouvelle de 130 pages. Et de Couple Modèle, son adaptation par Peter Askin, de 102 minutes, sortie en 2014 aux États-Unis et en 2017 en France, en direct tout vidéo. Le titre de la nouvelle comme du film, c'est Good Marriage en VO. Comme d'habitude, nous vous prévenons qu'il y aura des spoilers tant de la nouvelle que du film, donc si vous ne voulez rien savoir et que vous ne les avez pas voulu, arrêtez-vous là, puis revenez nous voir ensuite.
Surtout.
Et c'est parti. La nouvelle nous raconte l'histoire de Darcy, une femme mariée qui entre dans la soixantaine et qui vit heureuse avec son mari depuis plus de 25 ans. Mais un jour, elle se rend compte en fouillant le garage que son mari semble être un tueur très recherché qui a déjà fait 11 victimes, dont un enfant. Elle va beaucoup bloquer là-dessus. Et son mari, qui était en déplacement professionnel, quand il va revenir, va comprendre que sa femme a tout deviné, a tout appris, et il va lui faire du chantage en lui disant « De toute façon, si tu le dis déjà, ça ruinera la vie de nos enfants. De plus, personne croira que tu pouvais ne pas savoir depuis tout ce temps. Et de toute façon, je vais faire de mon mieux, je vais arrêter, je ne recommencerai plus jamais. » Donc la femme va accepter, Darcy va accepter, enfin va faire croire qu'elle accepte en tout cas, mais un jour, elle va avoir l'occasion de tuer son mari, de mettre fin à tout ça, et donc elle va commettre un meurtre et se demander si moralement elle a eu raison ou non de faire ça. La nouvelle a été inspirée à King par le tueur Dennis Rader, dit BTK, Bind, Torture and Kill, donc attaché, torturé et tué, c'est un surnom qu'il s'était lui-même donné.
On sent le mec pas psychopathe à part ça.
Ouais, c'est ça. Qui était l'auteur de 10 assassinats, 8 femmes, un homme et un enfant, donc les deux derniers c'était plus des dommages collatéraux, hein. Il s'attendait pas à ce qu'il soit là une fois en allant tuer une femme. Il a bien dû s'en occuper au passage. Les meurtres ont été perpétrés entre 1974 et 1991 au Texas, mais il n'a été arrêté qu'en 2005, parce qu'on avait recommencé à parler de lui, et donc il avait recommencé à envoyer des objets qui appartenaient à ses victimes. Et c'était un citoyen très bien intégré à sa communauté, et un père de famille d'apparence ordinaire et exemplaire. On a découvert donc ensuite, en faisant son profil psychologique, qu'il avait des pulsions masochistes avancées, qu'il prenait des effets à ses victimes pour les envoyer parfois à la police, donc quelque chose de très proche du tueur que va décrire King. Même dans la description physique d'ailleurs, BTK, en photo, il a l'air d'approcher de la cinquantaine, il est un peu gros, il est un petit peu dégarni.
Il a une sale gueule.
Il a...
dire.
Bon, après on a des photos de police aussi, donc tout le monde a une sale gueule là-dessus, et le fait de savoir qu'il a tué 10 personnes joue peut-être.
C'est vrai.
Et beaucoup ont soupçonné à l'époque sa femme, donc Paula Ryder, d'avoir toujours su et de ne rien avoir dit, d'avoir couvert ses crimes, mais King est persuadé de l'inverse, il est persuadé qu'on peut vivre à côté de quelqu'un et ne pas le connaître réellement, et c'est ce thème qu'il a voulu traiter dans la nouvelle.
Un thème très intéressant, demain.
Le thème est très intéressant. La nouvelle a été très bien reçue, la critique a beaucoup aimé ce récit, et globalement, le recueil Nuit Noire Étoile Morte a été pas mal accueilli. Ils ont vanté la psychologie du personnage principal et la façon dont est décrite le renversement de sa réalité, le fait que peu à peu elle sombre dans la noirceur alors qu'elle croyait qu'elle vivait une vie parfaitement banale et parfaite, en quelque sorte. Et ils ont bien aimé aussi le traitement du thème qu'on ne connaît jamais quelqu'un vraiment aussi proche qu'on se croit de lui. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, comme d'hab sur les nouvelles, on n'a pas non plus tant d'informations que ça. Nous allons donc pouvoir passer à nos avis. Chris, que penses-tu de la nouvelle Bon Ménage ?
Bon Ménage, c'est une nouvelle pas désagréable à lire, qui comporte tout de même quelques passages de longueur, je pense notamment... Alors c'est du développement de personnages, mais je trouve que pour le coup, c'est du développement de personnages qui apporte pas grand-chose, l'existence du fils... L'existence du fait qu'il a une société, je trouve que ça apporte pas énormément au récit. Tous les passages avec le monde parallèle qu'elle regarde dans le miroir, pareil, je comprends l'intention de montrer que, du coup, c'est faire un parallèle avec sa vie qui commence à devenir comme de l'autre côté du miroir. Je comprends l'intention, mais je trouve que c'est pas forcément bien amené, c'est un petit peu amené avec des gros sabots. Mais par contre, tout le reste, tous les autres éléments vantés par les critiques, c'est-à-dire le développement du personnage de Darcy, sa psychologie, ça par contre, je suis d'accord, c'est plutôt bien amené. Pareil, le thème est bien fait, il y a des bons moments, la découverte de la boîte où elle va trouver les papiers d'identité de l'une des victimes, c'est un passage qui est bien écrit, qui a pas mal de tensions, qui est bien amené. Le tête-à-tête avec son mari, quand lui se rend compte qu'elle a compris, pareil, c'est bien amené, le dialogue fonctionne bien. Donc globalement, c'est une nouvelle, enfin une longue nouvelle qui est pas désagréable à lire, mais c'est pas ce que j'ai lu mieux venant de King, avec des passages plutôt ennuyeux par moments.
On est d'accord. Alors déjà, à la lecture, je me suis dit que si c'était sorti dans les années 80, ça aurait probablement été publié sous le nom Bachman comme nouvelle, parce que c'est typiquement le genre de récit qu'on avait dans les Bachman, à savoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, d'assez terre-à-terre et d'assez sombre dans l'humanité telle que ça l'a décrit.
Oui, avec une absence totale de fantastique.
Ouais. Après, bah, je suis assez d'accord avec toi. Si, en fait, le format est un peu bâtard, c'est-à-dire c'est trop long, il y a des longueurs telles quelles, mais en même temps je me dis que si ça avait été plus long, si ça avait été un roman à part entière, notamment toute la partie où elle sait, mais où elle ne sait pas comment réagir, où elle vit avec son mari en sachant que c'est un tueur, en ayant peur qu'il recommence, toute cette partie-là, elle aurait pu durer plus longtemps, en fait ça aurait pu donner un roman avec une psychologie encore plus approfondie, et ça aurait peut-être été efficace, là peut-être tout ce qui concerne l'autre côté du miroir, tout ce qui concerne ses enfants, ça aurait peut-être eu plus de sens dans un récit plus long. Là, en l'état, il y a des embryons en fait de pistes qui sont posées, mais qui ne sont jamais assez développées, donc ils sont en effet assez ennuyants. Ça a du mal à créer une ambiance aussi. Enfin, l'ambiance prend jamais réellement pour moi.
Bah, mis à part certains moments.
Ouais, voilà, par scène, mais...
Et je trouve que ça manque d'indicateurs temporels. C'est-à-dire, à partir du moment où les deux personnages savent tout l'un de l'autre, bah, on sait pas trop combien de temps il se passe entre le moment où elle va décider de mettre fin à ses jours à lui. Voilà, on sait pas trop combien de temps il s'est passé. Alors que dans le film, c'est mieux amené. Tous ces indicateurs temporels, on voit qu'il se passe quand même plusieurs mois entre le moment où elle découvre et le moment où elle décide de passer à l'acte. Voilà, c'est mieux amené dans le film que dans la nouvelle.
Bah, elle laisse passer le mariage de sa fille, voilà. Notamment pour que le père soit là pour ça. Après, il y a dans la nouvelle aussi toute la fin. Donc, pareil, je comprends l'intention. Donc, à la fin, elle a fait le meurtre. Et quelques mois plus tard, il y a un flic plus ou moins retraité qui vient la voir et qui lui dit qu'il enquête sur Biddy, donc le tueur, depuis un bon moment. Et qu'il sait que c'est elle qui l'a tué, et que plus ou moins il lui donne l'absolution, il lui dit « Vous avez bien fait, j'aurais jamais pu l'arrêter, moi, j'aurais jamais pu trouver assez de preuves, et il fallait mettre fin à ce qu'il faisait, donc vous n'avez pas à vous en vouloir, vous avez bien fait. » Déjà, je trouve que c'est de trop, ça vient après le meurtre, et même si c'est potentiellement intéressant, ça donne un peu l'impression d'être rajouté.
Oui, parce qu'on sait pas trop, alors, c'est moins frais, que c'est moins présent dans le film, parce que dans le film, le vieux flic, on le voit relativement tôt, là, il sort un petit peu de nulle part. Ça joue du coup sur cette impression bah, que c'est une idée qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe et King l'a rajouté, comme tu dis. Et puis moi, ça me donne l'impression que King valide bah, la loi du talion et ou la peine de mort, en mode bah, c'était un salaud, t'as bien fait de le tuer.
Oui. Bah, après, est-ce que c'est l'intention de valider ou juste de mettre le propos dans la bouche d'un personnage? Mais c'est vrai que c'est assez flou et...
C'est flou quoi.
Ouais.
Parce que tuer des salauds, bah, ça reste quand même un meurtre. Voilà, la peine de mort, ça reste quand même... Après, c'est politique tout ça, mais la peine de mort, ça reste quand même un meurtre commis par un État.
Bah, d'autant plus que là, c'est pas la peine de mort, c'est vraiment...
C'est vraiment
un meurtre.
Oui, voilà, c'est vraiment... Bah, ça se rapproche plus du coup de la loi du talion.
Oui.
Si vous voyez, c'est une espèce de validation de la loi du talion étant quand même bah, quelque chose que je trouve d'assez gerbant personnellement, niveau éthique.
Oui, on est d'accord.
J'ai un peu du mal avec cette conclusion, du coup.
Alors d'ailleurs, fun fact, dans le film, à la base, Darcy devait être interprété par Charles Bronson.
Il est con.
Non, ben voilà, on est assez d'accord. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est juste qu'elle m'ennuie un peu. J'ai dû la relire. D'habitude, je retiens bien les récits que je lis. Là, j'ai dû la relire parce que j'avais gardé un souvenir très flou de ma lecture de Nuit Noire, Étoile Morte en général, qui est pas un recueil qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est banal. Ça a des défauts, ça a des qualités. Au final, je suis pas fan.
Voilà. Par contre, les scènes fortes, ça va être la découverte de la boîte. Et le meurtre du mari à la fin, quoi. C'est vraiment les scènes qu'on va retenir.
Bon, et puis leur discussion quand même,
oui,
elle marche vraiment bien.
La discussion qui fonctionne bien aussi et qui instaure un vrai moment de tension, parce qu'en tant que lecteur, on ne sait pas s'il va se couvrir en mettant fin à la vie de sa femme ou pas, quoi, à Darcy. Personnellement, je n'ai rien d'autre à dire de la nouvelle.
Non, pour moi, c'est tout aussi. Donc, on passe au film.
Bah écoute, passons au film.
C'est parti.
Everybody for coming tonight. Through hard work and lots of love, my parents have created something very rare. A good marriage.
When will you be back?
It depends on the traffic.
Drive safe. Bye.
Marjorie Duvall moved here after her divorce 5 years ago. Miss Duvall's body was discovered early this morning.
Elements of the crime suggest that it was the work of the notorious serial killer who calls himself Beatty.
You okay?
Yes. You're so lucky. I don't know how you do it.
And neither do I.
This is a lovely home.
What may I do for you, Detective Ramsey?
You just had to look, didn't you?
Darcy!
Le film est réalisé par Peter Askin sur un scénario de King lui-même. Les deux s'étaient rencontrés quand Askin avait aidé King et Anthony LaPaglia à développer leur comédie musicale Ghost Brothers of Darkland Country en 2012.
Si ça, c'est pas un titre qui claque.
Ouais, j'ai écouté, c'est pas trop mal, même si je suis pas fan du style musical. King propose à Askin de faire un film avec lui et il finit par se décider pour Couple Modèle, donc qu'il écrit un peu plus tard, car il trouvait que la longueur du récit était idéale pour le format film, donc c'était pas trop court, il n'y aurait pas à rajouter 36 000 trucs, et en même temps c'était pas un roman où il faudrait couper la moitié des choses.
Ce qui pour le coup est vrai d'ailleurs.
Oui. Et en plus, il avait envie de mettre en avant un récit avec une femme en protagoniste, c'est vers cette période-là qu'il recommençait à en écrire pas mal, avant il n'y en avait eu que quelques-uns.
Et on peut préciser qu'il a quand même fait beaucoup de progrès. En termes de personnages bien travaillés, enfin de personnages féminins bien travaillés.
Oui. Bah pour le coup, dans Nuit Noire, Étoile Morte, il y a deux nouvelles qui sont centrées sur des femmes, parce qu'il y a aussi Grand Chauffeur qui est une héroïne. Peter Askin, c'est le réalisateur du film Company Man, que je n'ai pas vu, et un documentaire apparemment assez bon sur Dalton Trumbo. Et il a mis en scène la comédie musicale Hedwig and the Angry Inch, mais ça semble à peu près tout. Il fait peut-être des choses à côté, mais d'après ce que j'ai trouvé sur sa carrière artistique, en tout cas... Il n'y a pas tant de choses que ça. Il est aussi producteur du film en compagnie de Will Battersby, qui était déjà producteur aussi sur le documentaire sur Trumbo, et de Per Melita, le plus expérimenté du lot, puisqu'il a une solide carrière de producteur et directeur de production derrière lui, même s'il n'y a rien d'extraordinaire dans le lot. Au casting, on a Joan Allen dans le rôle de Darcy, c'est une actrice née en 1956, donc on constate qu'il n'y a pas eu de tentative pour rajeunir les personnages, ce qui déjà est plutôt louable, je trouve, c'est pas si fréquent que ça. On a pu la voir dans le rôle d'Eve Archer, la femme du personnage de Travolta dans Volteface, donc le personnage de Travolta au début du film, pas une fois qu'il y a eu le Volteface. Elle a joué aussi Pat Nixon, la femme de Nixon dans le film d'Oliver Stone, et de Pamela Landy, une chef d'opération de la CIA dans les films Jason Bourne. C'est pour ça que son nom me disait quelque chose, moi, principalement. Et elle a joué aussi dans les films La Chasse aux Sorcières et Pleasantville, que je n'ai pas vu, mais pour lesquels elle a été récompensée en tant que meilleur second rôle féminin. Je sais pas si tu connais.
Que je n'ai pas vu non plus.
D'accord. Dans le rôle du mari, on a Anthony LaPaglia, donc qui joue Bob, il est né en 1960, donc pareil, il a l'âge du rôle. Il est connu pour le rôle de Jack Malone dans FBI Porté Disparu, et il a pas mal joué au cinéma dans des rôles secondaires, ainsi qu'au théâtre, surtout dans les années 90. FBI Porté Disparu, j'ai juste vu un ou deux épisodes, dans mon souvenir c'est raisonnable.
Oui, moi c'est pareil, j'ai pas vu grand-chose de FBI, mais c'était de là, du coup, que sa tête me disait quelque chose.
Et dans le rôle du policier retraité, Ott Ramsey, on a Stephen Lang, donc c'est un second couteau assez actif qu'on a pu voir dans Avatar, il joue un des méchants généraux, dans Les Chèvres du Pentagone.
Il joue même le méchant principal.
Oui, effectivement, oui. Dans Public Enemies et dans différentes séries télé et téléfilms, donc c'est un second couteau, une gueule de cinéma qu'on voit régulièrement, sa tête me disait quelque chose, en effet. Après, il a jamais ou presque jamais eu le premier rôle.
Non, mais c'est quand même, ça reste quand même un très bon acteur au demeurant.
Ah oui, clairement, oui. D'après King lui-même, malgré le fait qu'il soit scénariste, il ne s'est jamais directement rendu sur le plateau de tournage, il avait l'intention de le faire une fois, mais c'était un jour où Joan Allen voulait particulièrement se concentrer sur son rôle, donc le directeur lui a demandé de pas venir, parce que ça l'aurait dérangé. Donc il a laissé, dit-il, le réalisateur libre de ses mouvements. Bon, après, vu l'audace des mouvements du réalisateur, ça va, il a pas pris de grands risques. Même s'il était tout le temps au courant de ce qui se passait. La musique est de Danny Bensi et Sander Jurjans, qui est un duo de compositeurs qui ont fait partie d'un groupe de rock appelé Priest Bird, du rock progressif un peu étrange, avant de devenir des compositeurs ultra actifs pour la télévision, puisque Danny Bensi a 107 crédits sur IMDb depuis 2010 et l'autre en a 108.
Ah oui, quand même!
Dont Fear the Walking Dead, American Gods, Le Ennemi de Denis Villeneuve, énormément de téléfilms, de courts-métrages, de documentaires, et ils travailleront aussi sur l'adaptation de L'Outsider à venir l'année prochaine, normalement.
D'accord.
Dans le film, la BO est assez discrète, elle est indisponible en dehors, donc mes impressions vont être sur ce que j'en ai ressenti dans le film. Il y a un thème principal qui est au piano et au vent, qui est pas désagréable, mais quand même assez convenu. En dehors de ça, c'est surtout des nappes de synthé d'ambiance, pareil, pas particulièrement passionnante.
Oui, c'est globalement très oubliable.
Bon, à l'écoute des autres BO du duo, ils ont fait des trucs plus intéressants, dans le même style, c'est-à-dire que c'est toujours très ambiant, avec quelques thèmes mélodiques, mais toujours assez discret, assez léger, assez minimaliste en fait. Mais il y en a d'autres où ils font un travail sonore plus intéressant, plus de recherche, même si ça a toujours du mal à me passionner réellement. J'ai juste été déstabilisé par un point, le thème qui est associé aux enfants dans le film, qu'on entend quand il y a des conversations avec eux ou pendant le mariage, il rappelle beaucoup Spiegel im Spiegel d'Arvo Part. Je sais pas si c'est conscient ou pas de leur part, mais si on écoute les deux, c'est vraiment très proche dans la progression du piano notamment.
D'accord.
Le film sort le 3 octobre 2014 aux États-Unis, en salle et en VOD à la fois. La réception critique et publique est très tiède. Certains parlent d'un script plutôt efficace de King, mais globalement, ils disent que c'est en dessous de la nouvelle, notamment en supprimant les quelques touches d'humour un peu noires qu'on peut avoir dans la nouvelle. Et tout le monde signale que la réalisation de Peter Haskin est très plate, et bon, là, je peux pas dire l'inverse. Et aujourd'hui, le film est à 32% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes et 2,3 étoiles sur Allociné. 32% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, c'est deux fois moins que Le Fléau.
Ça va être notre nouvelle balance.
Notre maître étalon.
Je sais pas si le mot étalon et maître correspondent bien au fléau, mais bon.
Bon, globalement, c'est une adaptation très très fidèle, comme souvent quand King est scénariste. Dans les différences, on peut dire que la découverte de la boîte se fait en deux temps dans le récit, tandis que c'est en une seule fois dans le film, pour gagner du temps. Que la boîte est un cadeau de Darcy dans la nouvelle, pas de sa fille, comme dans le film. Et que l'absolution du flic vient à sa mort dans le film, c'est-à-dire il est sur son lit de mort, il va crever dans quelques instants, et il donne son... Enfin, il pardonne Darcy, tandis que dans la nouvelle, bon, on dit qu'il est en fin de vie, mais il est quand même plutôt en forme tout de même. Mais sinon, les deux sont quasiment identiques, et je pense qu'il y a des dialogues qui sont repris presque au mot près.
Même si tu me dénonces à la police, je bougerai pas le petit doigt. Mais il faut que tu penses aux enfants. Il faut aussi que tu penses à toi, Darcy. Chérie, il faut que tu penses à toi, tu comprends? Qui va bien pouvoir croire que tu as vécu avec moi toutes ces années sans jamais rien savoir? Tu ne t'en doutais même pas.
Je savais rien, j'ai jamais rien su.
De plus, il faudrait que tu déménages. La société Anderson Pièce de Collection serait sur la liste noire de ses clients, ça je peux te l'assurer. Et tu le sais, il y a les enfants qui devront vivre dans la honte et même dans l'humiliation toute leur vie.
Ne dis pas ça, arrête, laisse-les tranquilles. Quand tu parles de ça, ne les mêle pas à ce malheur.
Oui, d'accord.
Ils n'ont rien fait.
Est-ce qu'on... Écoute, on peut tourner la page et passer à autre chose.
Oh, Seigneur, je ne sais pas. Attends, d'accord. Je ne peux pas te répondre, Bob. Laisse-moi y réfléchir.
Bien sûr. Réfléchis, tu as raison, je te comprends.
Donc Chris, que penses-tu de ce film ?
Eh ben écoute, c'est beaucoup mieux rythmé que la nouvelle.
Oui.
Le développement de personnage est plutôt bon là, par contre, comme la nouvelle. Ça amène quelques petits éléments en plus. On y reviendra, parce que là c'est un avis vraiment général que je vais faire. C'est pas désagréable, c'est pas extraordinaire non plus. On l'a dit, la bande originale est quelconque, enfin la BO est quelconque. Il y a quelques bonnes idées sonores, notamment au moment où Darcy découvre la boîte. Globalement, les scènes qui fonctionnent dans la nouvelle fonctionnent aussi dans le film. La scène de la découverte de la boîte, le dialogue dans le lit. Il y a que la scène, on n'est pas d'accord, je le sais, la scène de la chute d'escalier a moins d'impact, je trouve, dans le film, mais c'est cohérent parce que c'est pour garder un film relativement tout public, parce que la scène de la chute d'escalier dans la nouvelle est quand même franchement dégueulasse et assez glauque.
Mmh, on va y revenir.
Et globalement, sur le film, mis à part rentrer en profondeur, c'est tout ce que j'ai à dire pour un avis global.
Oui, bah à peu près pareil, en fait, il enlève le gras, il enlève le trop de la nouvelle pour garder l'essentiel, donc ça fait un petit thriller efficace. Après, finalement, j'aurais du mal à trouver des trucs particuliers à signaler, parce que le scénario, malgré cette bonne idée de base, il n'est pas non plus extraordinaire, c'est un scénario de thriller assez lambda, et la réalisation est très lambda aussi, c'est les seules idées de mise en scène, c'est par exemple ces plans zénithaux sur les escaliers qui annoncent donc le meurtre à venir, mais c'est pas non plus débordant d'originalité, et sinon bah, pour créer la tension, on met de l'orage, voilà, super original.
Le bruit de la pluie.
C'est ça, le bruit de la pluie.
À la découverte de la boîte, la bonne petite idée, c'est le grincement de la lampe. En fait, il y a une lampe au-dessus de Darcy, oui. Elle, en se relevant, il me semble qu'elle se cogne dessus, et donc ça fait bouger la lampe, et la lampe émet un grincement tout le long où elle découvre la boîte. Ça amène un petit truc niveau ambiance.
Oui.
Non, par contre, dans les bonnes idées que j'ai trouvées, c'est au début du film, ils reviennent d'une espèce de gala, on sait pas trop ce que c'est, mais ils reviennent d'une soirée, et en fait, là, ils sont encore vraiment... elle n'a pas découvert qui il est, et donc ils reviennent, ils sont en forme, ils s'apprêtent à faire la chose, pour reprendre une expression bien connue de l'univers podcast. Et en fait, elle lui demande un verre d'eau gazeuse, ce qui fait un parallèle avec la fin du film.
Mais oui, ce qui reviendra.
Mais surtout, ce qui amène le fait que c'est un rituel de leur couple. Du coup, ça fait qu'à la fin, Bob n'a pas à s'inquiéter en fait, qu'elle lui demande un verre d'eau gazeuse. C'est quelque chose de rituel qui arrive très souvent. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'instaurer ça à un moment de paix en fait, dans le couple, pour le remettre ensuite à la fin, ce qui va amener la bataille finale.
Ouais.
Et du coup, ça revient même à plusieurs moments du film, cette histoire de gazeuse qui lui ramène.
Voilà. Les enfants sont plus mis en avant dans le film, on voit mieux la fierté qu'ils ont d'avoir des enfants, l'amour des enfants pour leur père, ce qui est un des trucs qui fera beaucoup hésiter Darcy. Ce qui est au début, c'est leur 25 ans, je crois, de mariage.
Ouais.
C'est cet anniversaire-là, donc pareil, ça montre le couple très bien installé au départ.
Pareil, la scène du lit, où il y a cette conversation, et où lui... Dès qu'il se rapproche un petit peu à chaque fois de Darcy pendant la conversation, elle se recule pour au final terminer sur un plan que je trouve plutôt chouette où on voit la caméra éloignée du lit et on voit lui qui est accolé à elle et elle qui en fait est à moitié en dehors du lit,
oui.
Tellement à circuler juste avant qu'elle éteigne la lumière. Je trouve que ce plan a plutôt de la gueule et est plutôt fort en fait parce qu'on, oui, voit l'éloignement qu'elle essaye déjà de créer entre elle et lui, mais pas de manière brutale parce que bien entendu elle a peur de sa réaction à lui.
Alors, détail étrange au niveau de la réalisation qui fait qu'il y a des moments où on voit vraiment qu'on est sur un plateau. Il y a des scènes de jour dans la baraque où absolument toutes les lumières sont allumées.
Oui.
Je sais pas si t'as fait gaffe.
Oui, j'ai fait gaffe.
C'est très bizarre, c'est probablement pour le travail de l'éclairage, mais c'est pas discret du tout et ça donne une sensation de faux.
C'est ça, c'est très bizarre.
Mais bon, sinon, oui, c'est un film plutôt agréable. Alors, le couple d'acteurs principaux est très bon, Joan Allen comme la Paglia, sont très très bien dans leur rôle. C'est clairement eux qui portent le film, surtout Joan Allen. Comme je disais, ils ont respecté l'âge des rôles, ce qui est une bonne chose. Après, la Paglia est assez différent de la description du personnage dans le roman, il est quand même plutôt, plutôt beau gosse pour son âge, on va dire.
Oui, alors qu'il est décrit comme dégarni, un petit peu en surpoids dans la nouvelle, ce qui est le cas aussi pour le surpoids dans le film, mais c'est moins voyant que ce que King en fait dans la nouvelle.
Ouais, c'est ça. Donc globalement, ouais, j'ai pas forcément grand chose à dire, parce que c'est un film assez banal au final, qui marche, qui est efficace.
Oui, voilà, c'est plutôt bien.
Qui a rien de remarquable.
On voit pas trop le temps passer, mais c'est pas extraordinaire non plus, quoi.
Et c'est tout public comparé donc à la nouvelle, comme on l'a dit, ça peut être regardé par à peu près tout le monde.
Alors pour le coup, ça fait abstraction de scènes vraiment too much dans la nouvelle. Une scène où Darcy a l'estomac retourné, elle court en toilette pour vomir et pour déféquer, c'est vraiment King qui veut mettre du dégueulasse dans une nouvelle, ben voilà, il fait ça.
Bah après ça, c'était pour développer le King Literary Universe, c'était pour faire un parallèle avec Dreamcatcher.
Ah d'accord. Et le passage descriptif du flic où il explique que Bob a arraché le pénis d'un enfant avec les dents. Bon, clairement, c'était too much, c'était pas la peine de le mettre dans le film, bah heureusement ils ne l'ont pas fait. À mon avis, dans le roman, c'est vraiment, c'est balancé à la gueule du lecteur pour enfoncer les clous et vraiment faire en sorte que le lecteur soit d'accord avec le flic et dans le fait de pardonner à Darcy ce qu'elle a fait.
Ouais.
Et c'est même pas en plus, ce que t'as dit tout à l'heure, que le flic la pardonne, c'est même pas du pardon, c'est vraiment de la félicitation en fait.
Oui.
Plus que du pardon, je trouve. Et c'est ça en fait qui dérange dans la scène et c'est ça qui donne l'impression d'une validation de la loi du talion.
J'ai du mal après à dire si je préfère cette scène dans le film ou dans le livre, parce que dans le film, il y a ce fait intéressant que pendant un instant, elle est au bord du gouffre et qu'il y a cette idée que le meurtre appelle le meurtre parce qu'elle est sur le point de tuer aussi le flic oui. pour pas qu'il parle. Ça, il n'y a pas du tout dans la nouvelle. Et je trouve ça intéressant. Après, à côté de ça, le côté où il est en train de mourir, il arrive vraiment au dernier moment, c'est quand même ultra cliché. Mm. Et la description a quand même plus le temps de se développer dans la nouvelle. Après, dans la nouvelle, il sort encore plus de nulle part, tandis que dans le film, on l'a vu 2-3 fois. Donc finalement, les deux ont des défauts et des qualités à ce niveau-là. Après, dans les deux cas, ça fait un peu rajouter comme scène.
Dans le film, il pense qu'elle est complice, directement, parce qu'il l'accuse dès qu'il arrive.
Ouais.
Et surtout, dans le film, il fait des raccourcis un petit peu faciles, quoi. Il s'appelle Bob, tu t'appelles Darcy, ça fait Bidi, bah voilà.
Ouais. Bon, après, l'explication dans la nouvelle est pas beaucoup plus... c'est les initiales de son ami d'enfance, hein, ça tient pas beaucoup plus la route.
Oui, mais je suis d'accord que les deux explications tiennent pas la route, mais disons que des raccourcis comme ça, quand t'es flic, je pense que des gens qui, comme par hasard, portent les initiales d'un tueur, il y en a plein dans le monde, et c'est pas pour ça que tu vas aller les accuser comme ça sans...
Ah, il y a un album de Tintin sur votre étagère. Il lit de la Bidi.
Voilà, c'est ça. Ah, vous avez Tintin au Congo, vous êtes sans doute un gros facho, bon, voilà. Non, ouais. C'est pas comme ça que ça marche, les accusations policières, normalement. Enfin, normalement.
Donc voilà, un film, pour moi, supérieur à la nouvelle, dans la mesure où je me suis pas ennuyé devant le film.
Oui, voilà, il a plus de rythme, quand même.
Mais c'est pas foufou. Si vous avez un après-midi à passer, pourquoi pas.
Oui, sinon, il y a la chambre 1408 aussi.
Oui, aussi, mais bon. Si vous avez déjà vu la chambre 1408...
Enfin, j'espère qu'en 15 jours, vous avez eu le temps de la voir.
Que vous écoutez nos avis, surtout.
Oui, aussi, surtout.
Et que vous vous êtes infligé le fléau pour nous soutenir.
Ah
Bon, je pense que c'est à peu près tout. On va pouvoir passer au comparatif de scène. C'est parti.
Pour le comparatif de scène, nous avons choisi la scène où Darcy décide de passer à l'acte, où elle pousse son mari au travers des escaliers. Nous lisons, enfin je vais donc vous lire l'extrait issu de l'édition du livre de poche, traduit par Nadine Gassi, et nous sommes à la page 547. Un verre de Perrier pour madame, chaude. Elle vit l'éclair de compréhension traverser ses yeux à l'ultime seconde. Il allumait un éclat jaune, ancien et viscéral, qui exprimait, plus que de la surprise, une fureur outrée. À cet instant, sa perception de lui fut totale. Il n'aimait rien, et elle encore moins. Chaque gentillesse, chaque caresse, chaque sourire craquant et chaque geste prévenant. Tout cela n'était que camouflage. Il était une coque creuse. Il n'y avait rien dedans qu'un vide abyssal. Elle le poussa. Fort. Il fit 3/4 de saut périlleux en arrière avant de retomber sur les marches, qu'il heurta d'abord des genoux, puis du bras, avant de les prendre en plein visage. Elle entendit son bras se briser en même temps que le lourd verre Waterford sur l'escalier sans tapis. Il fit encore un roulé-boulé, et elle entendit un autre craquement à l'intérieur de lui. Il hurla de douleur, et, après une ultime cabriole, s'affala, enta sur le parquet en chaîne de l'entrée. Son bras cassé. En plusieurs endroits, c'était sûr. Replié au-dessus de sa tête selon un angle que la nature n'avait jamais prévu. Sa tête était tordue, une joue reposait sur le parquet. Darcy se dépêcha de descendre l'escalier. Dans sa hâte, elle glissa sur un glaçon renversé et dut se cramponner à la rampe pour ne pas tomber. En bas, elle voyait une énorme protubérance saillir sous la peau de sa nuque qui en était devenue blanche. Et elle dit « Ne bouge pas, Bob. Je crois que tu as la cervicale brisée. » Elle vit son œil rouler vers le haut pour la regarder. Un filet de sang coulait de son nez, qui avait l'air cassé aussi, et un flot sortait, jaillissait presque, de sa bouche. « Tu m'as poussé, » dit-il. « Oh, Darcy, pourquoi m'as-tu poussé ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle. Et elle pensa, nous le savons tous les deux. Elle se mit à pleurer. Les larmes vinrent naturellement. C'était son mari, et il était grièvement blessé. Oh Seigneur, je ne sais pas. Ça m'a pris comme ça. Je suis désolé, bouge pas. J'appelle 911 pour qu'ils envoient une ambulance. Son pied racla le sol. Je ne suis pas paralysé, dit-il. Bon Dieu, merci. Mais ça fait mal. Je sais, chérie. Appelle l'ambulance, vite. Elle passa à la cuisine, accorda un bref regard au téléphone sur son support chargeur, et ouvrit le placard sous l'évier. Allô ? Allô ? Je suis bien en 911 ?
Elle prit le paquet de sacs en plastique Glad, format familial, qu'elle utilisait pour conserver les restes quand elle faisait un poulet ou un rôti de bœuf. Et en sortit un. Ici Darcelyn Anderson, 24 Sugar Mills Lane, Wormhouth. Vous avez noté ? Dans un autre tiroir, elle prit un torchon à vaisselle sur le dessus de la pile. Elle pleurait encore. Pleure, tu pisseras moins au lit, comme ils disaient quand ils étaient petits. C'était bon de pleurer, elle avait besoin de pleurer. Et pas seulement parce que ça faisait meilleur effet pour elle plus tard. C'était son mari, il était blessé, et elle avait besoin de pleurer. Elle se rappelait quand il avait encore sa belle tête de cheveux. Elle se rappelait sa figure libre et bourrifante quand il dansait sur Footloose. Il lui offrait chaque année des roses pour son anniversaire. Il n'oubliait jamais. Ils étaient allés en vacances dans les Bermudes, vélo le matin, amour l'après-midi. Ils avaient bâti une vie ensemble, et aujourd'hui, cette vie était finie, et elle avait besoin de pleurer. Elle enveloppa sa main dans le torchon à vaisselle et le fourra dans le sac en plastique. « J'ai besoin d'une ambulance. Mon mari est tombé dans les escaliers. J'ai peur qu'il n'ait les cervicales brisées. Oui ? Oui ? Tout de suite !» Elle retourna dans l'entrée, la main droite derrière le dos. Elle vit qu'il s'était un peu écarté du pied de l'escalier, comme s'il avait essayé de se retourner sur le dos, sans y parvenir. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Je suis pas tombé, » dit-il. « Tu m'as poussé. Pourquoi tu m'as poussé ?»« Pour le petit Shaverstone, je pense, » dit-elle. Et elle sortit sa main de derrière son dos. Elle pleurait plus fort que jamais. Il vit le sac en plastique. Il vit la main enveloppée dans le torchon à l'intérieur. Il comprit ce qu'elle avait l'intention de faire. Peut-être lui-même avait-il fait une chose semblable. Probablement qu'il l'avait fait. Il se mit à crier, sauf que ses cris n'avaient plus grand-chose à voir avec des cris. Il y avait quelque chose de cassé dans sa gorge. Sa bouche était remplie de sang, et les sons qu'il produisait tenaient plus des grondements guttureux que des cris. Elle fourra le sac en plastique entre ses lèvres et l'enfonça profondément dans sa bouche. Plusieurs des dents s'étaient cassées dans sa chute, et elle sentit leur aspérité acérée. Si elle se coupait la main, elle risquait d'avoir quelques sérieuses explications à fournir. Elle libéra sa main d'un coup sec avant qu'il puisse mordre, laissant le sac en plastique et le torchon derrière elle. Lui saisit la mâchoire et le menton d'une main, posa son autre main sur le sommet dégarni de sa tête. La peau était toute chaude à cet endroit-là. Elle sentait palpiter le sang en dessous. D'un coup sec, elle lui referma la bouche sur le bâillon de plastique et de tissu. Il tenta de la repousser, mais il n'avait qu'un seul bras de libre, et c'était celui qu'il s'était fracturé dans sa chute. L'autre était tordu sous lui. Ses pieds moulinaient par à coup sur le parquet en chaîne. Une chaussure se détacha. Il gargouillait. Elle remonta sa robe jusqu'à la taille pour se placer à pied et fourchon sur lui. Si elle y parvenait, elle pourrait peut-être lui pincer les narines pour qu'il arrête de respirer. Mais avant qu'elle ait pu essayer, elle sentit sa poitrine commencer à se soulever et s'abaisser en dessous d'elle, et entendit les gargouillis dans sa gorge se muer en un profond grondement. Ça lui rappelait l'époque où elle apprenait à conduire, quand elle faisait grincer la boîte de vitesse capricieuse de la vieille Chevrolet standard de son père. Bob eut un brutal sursaut. Son seul œil visible était aussi protubérant que celui d'une vache. Son visage, rouge cramoisi, commençait à virer au violet. Il retomba sur le sol, elle attendit, hoquetant, haletante, le visage barbouillé de morve et de larmes. L'œil ne roulait plus et n'était plus luisant de panique. Elle pensait qu'il était dans un ultime, titanesque sursaut, Bob la repoussa. Il se redressa sur son séant et elle vit que son tronc ne s'ajustait plus correctement à son bassin. Il s'était non seulement brisé les cervicales, mais le dos aussi, apparemment. Sa bouche doublée de plastique béat. Ses yeux la fixèrent d'un regard qu'elle n'oublierait jamais, mais avec lequel elle pourrait continuer à vivre, si toutefois elle venait à bout de ceci. « Dar !» Il tomba à la renverse. Sa tête, sur le parquet, fit un bruit d'œuf qui se brise.
Et maintenant, la même scène dans le film.
« Que tu sois prête ou pas, j'arrive de ce pas. Elle est là, ma petite coquine.
Oh, tu es mon petit coquin, toi. »
Pourquoi tu m'as poussé?
C'était peut-être une expérience féminine. J'espérais tellement que tu mourrais dans ta chute. mais tu pouvais aussi ne pas mourir. Oui, elle est bien là, mon petit Bobby. Oh, je vais me déchaîner sur toi. Oui, comme tu aimes. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Très bien, donc je me permets de commencer. La différence principale entre les deux scènes, c'est que dans le film, c'est beaucoup, beaucoup moins gore que ça ne l'est dans la nouvelle. Le film avait pour visée d'être relativement tout public, donc il pouvait pas se permettre la débauche de détails glauques qui nous est donnée dans la nouvelle. Finalement, il fait une chute assez rapide dans l'escalier, il tombe à pic. Il n'y a pas tellement de sang que ça, alors elle l'étouffe aussi avec un sac en plastique, ça c'est conservé, mais il n'y a pas tous les détails, la colonne vertébrale brisée, le déplacement de la nuque, voilà, les dents pétées, effectivement.
Il y a le détail de la fouille dans la bouche pour récupérer les morceaux de plastique laissés par le sac.
Oui, qui vient juste après, pour ne laisser aucune preuve.
Mais du coup, moi, en fait, ce qui me dérange le plus dans cette scène, parce que autant je trouve la scène plutôt forte, bien rythmée et bien écrite dans la nouvelle, autant je la trouve vraiment beaucoup trop aseptisée pour le coup dans le film. Dans le film, il tombe, ensuite elle s'attaque à lui avec le torchon et le sac plastique comme elle le fait dans la nouvelle, mais je trouve que, étant donné que lui a la même réaction que dans la nouvelle, c'est-à-dire il se débat mais pas plus que ça, alors que la chute qu'il fait, on n'a pas l'impression qu'elle a fait énormément de dégâts.
Oui, après ça, je pense qu'il y a moyen de pas se faire plus de dégâts que ça en faisant ce genre de chute. Hein.
Oui, non, mais...
Enfin, de se faire beaucoup de dégâts, au contraire, en faisant une chute pas forcément de très haut, et si tu tombes mal...
Mais disons que la chute ne me paraissait pas violente de manière dont elle est filmée, c'est-à-dire il tombe, il est amorti un petit peu par la table, et en fait il tombe de manière normale, sans se retrouver avec un bras qui serait orienté dans un angle improbable, Voilà, on ne voit pas qu'il s'est cassé un membre en fait.
C'est peut-être la manière dont c'est filmé qui pose problème, voilà. Parce qu'après je trouve que le côté assez sobre... Ça va avec l'idée de faire un petit thriller plutôt calme, plutôt posé, qui ne va pas dans la scène ultra gore.
Je sais pas, parce que t'aurais pu très bien faire un roulé-boulé à travers l'escalier qui ne soit pas violent visuellement.
Oui, peut-être, effectivement, au moins de faire ça.
Mais... Voilà, et là, du coup, un roulé-boulé dans l'escalier, ça peut vraiment te faire penser à au moins des fractures, même si tu les montres pas de manière claire. Alors que là, vraiment, il tombe, et c'est limite s'il tombe pas sur ses pieds, quoi.
Là, il y a peut-être aussi un problème de budget niveau cascadeur engagé, oui, voilà, pour faire ce genre de truc, c'est peut-être ça aussi.
C'est peut-être ça aussi.
Après, je trouve pas la scène inefficace dans le film. Elle est peut-être plus ordinaire, moins grandiloquente, mais elle remplit son rôle, je trouve.
Ce qui du coup manque aussi par rapport à la version nouvelle, c'est que dans la nouvelle, elle fait mime d'appeler les secours. Ce qui met un petit peu Bob dans l'incompréhension. Il n'a pas l'air de trop savoir est-ce qu'elle veut l'aider, est-ce qu'elle a fait exprès, alors que dans le film, il n'aurait aucun doute dans le fait qu'elle essaie, enfin qu'elle veut vraiment le tuer.
Oui.
Je trouve que pour le coup, ça manque, ça, ce mime d'appeler les secours.
Oui, effectivement, ça aurait rajouté quelque chose, ça aurait rajouté de la tension en plus, je pense.
Voilà. C'est les deux trucs qui manquent, et pour le coup, je trouve que ça apportait vraiment quelque chose à la nouvelle et qui n'est pas présente dans le film. Je trouve pour le coup la scène beaucoup plus réussie dans la nouvelle.
Ouais, après je la trouve peut-être un peu excessivement gore dans la nouvelle, de manière inutile. Alors oui, ça peut arriver en faisant une chute comme ça, de se briser à ce point-là. Enfin, après, il tombe du premier étage quand même, il tombe pas de si haut non plus, donc les dégâts me paraissent quand même énormes.
Dans la nouvelle ?
Ouais.
Après, dans la nouvelle, on te dit bien qu'il tombe d'abord sur les genoux, ensuite c'est la face qui se prend une démarche. Ça peut expliquer quand même les dents cassées, voilà.
Ouais, certes, mais je sais pas, je trouve que t'avais une nouvelle presque assez sobre assez jusqu'à posé, présent, ouais. Et là, d'un coup, tu sombres dans quelque chose d'extrêmement gore, je sais pas. Après, ça, c'est pas inefficace, hein, mais...
C'est vrai que le côté, ah bah, il s'est aussi brisé le dos, c'est peut-être un peu trop, dans la nouvelle. Genre, au moment où il se redresse, bon, normalement, quand tu t'es cassé le dos, te redresser, c'est pas trop possible.
Oh, il a aussi chopé un cancer.
Oh mon dieu, regardez. Il a développé une tumeur au cerveau, ou quoi. Ouais, la chute, les dégâts provoqués par la chute, tout du moins dans la nouvelle, sont peut-être un peu too much, mais comme beaucoup d'autres éléments de la nouvelle au final.
Oui, on est d'accord qu'il y a 2-3 moments où la nouvelle est un peu excessive. Après, c'est plus cohérent quand ça parle des meurtres de Biddy. Après, il y a un côté ironique du coup à ce qu'il meurt de manière excessive, alors que lui-même a été ultra excessif avec ses victimes.
Oui.
Mais voilà, je sais pas, même si c'est pas totalement réussi, je trouve la démarche du film pas inintéressante.
Oui, tout à fait.
Après, c'est pas fou. Hein.
Les deux versions sont correctes. Hein. Oui. C'est juste que j'ai une petite préférence pour celle de la nouvelle, pour le coup.
Ouais, je comprends.
Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le développement.
Oui, moi, pareil, enfin, encore une fois, ni sur la nouvelle, ni sur le film, il y a grand-chose à dire, pour ce que les deux sont assez banals, au final.
Voilà, en fait, le postulat de départ était vraiment bien, c'est l'exécution qui a quelques défauts, quoi.
C'est ça. Je propose qu'on passe à la notation,
et ben,
enfin,
passons,
au classement.
Passons au classement.
C'est parti.
Alors, côté écrit, nous avons donc en première position Cimetière, suivi de La Tour Sombre, Salem, Carrie, 1408, Le Fléau, pour terminer en 7ème position par Les Enfants du Maïs. Alors, où placer Bon Ménage? Je t'avoue que je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ça va au-dessus des Enfants du Maïs, pour moi.
Ah.
Ah.
J'aurais mis en dessous, moi.
Tu mettrais en dessous?
Ouais.
Alors, moi, ça irait, mais pas beaucoup au-dessus, ça irait juste au-dessus. Hein. Ça reste en dessous du Fléau, parce que Le Fléau a un tome 1... vraiment en tout point au-dessus de Bon Ménage.
Ouais.
Voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a plus de développement dans Bon Ménage. Et en fait, le postulat de base, l'idée de base, est en elle-même supérieure à l'idée de base des Enfants du Maïs.
Ouais, mais dans l'exécution et l'ambiance, je trouve les Enfants du Maïs finalement bien mieux que Bon Ménage.
Ah, je sais pas. Vraiment, la chute de l'escalier, la confrontation du lit et la découverte de la boîte, c'est vraiment des passages très très forts de la nouvelle et qui, pour moi, m'ont beaucoup plus attaché que tout ce qui se passe dans Les Enfants du Maïs.
Ouais, moi, je sais pas. Je trouve que sur l'ensemble, Les Enfants du Maïs, en nouvelle,
ouais.
Est plein de passages qui marchent. La découverte du registre dans l'église, pour moi, finalement, c'est du même niveau, si ce n'est un peu plus efficace dans l'ambiance que la découverte de la boîte dans cette nouvelle-là, qui pour moi a des intentions louables, mais vraiment faillible dans son exécution.
Mmh.
Après, sans être une mauvaise nouvelle. Hein,
mais... Oui, mais voilà, c'est ça. C'est encore une fois, on n'est pas encore tombé sur un truc vraiment nul.
Mmh.
Est-ce que j'ai vraiment envie de me battre pour Bon Ménage?
Enfin, en même temps, moi non plus, je vais pas me battre. Enfin, j'ai pas envie de le descendre non plus. Donc, si tu veux, je te l'accorde, hein, de le mettre au-dessus des Enfants du Maïs. Ça va. Hein.
On se prend pas la tête, ouais. Et on le met au-dessus des Enfants du Maïs.
Ouais, allez, c'est... On va dire que c'est parce qu'il a plus écrit, on va récompenser la quantité.
Allez, du coup...
Donc, au-dessus des Enfants du Maïs.
Qui prend du coup la 8ème place et Bon Ménage en 6ème position.
7ème.
Oui, 7ème place et ouais. Les Enfants du Maïs qui prend la 8ème position.
Ouais. Pour les films, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, en deuxième Chambre 1408 de Michael Avstrom, en troisième Cimetière de Marie Lambert, puis Salem de Michael Salomon, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Borchers et Le Fléau de Mick Garris. Pour la suite, je vous mettrai peut-être la liste dans la description parce qu'on va commencer à avoir des trucs hyper longs à vous décrire à chaque fois.
Bah, on donnera les trois premiers et les trois derniers, à la limite. Au bout
ouais, à la limite, ouais. Où est-ce que tu mettrais ce film-là?
Ah, quand tu demandes mon avis en premier, ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas où le mettre. Ou que tu as des grosses hésitations.
J'ai une zone, c'est-à-dire pour moi...
Alors moi aussi j'ai une zone. En dessous de la chambre 1408, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ni une des deux premières, ni une des trois dernières places.
Moi vraiment je le mettrais entre Salem et Cimetière. Parce que niveau réalisation, Bon Ménage est plus propre que Cimetière, mais niveau tension, Cimetière est supérieur.
Ouais, même niveau réalisation, je pense que le fait que ce soit plus propre, c'est aussi une question d'époque, hein, parce que
oui,
Cimetière
aussi.
Est pas mal réalisé.
Oui, bien entendu. Non mais oui, je parlais vraiment de visuellement... Ouais, pour moi, ça serait entre Cimetière et Salem. Parce que pour le coup, Salem, alors que c'est pas si vieux que ça, et pourtant, t'as l'impression que c'est très vieux.
Mm.
Après, c'est le format de téléfilm qui veut ça, mais Salem était pas plus passionnant que ça.
Oui,
mais
après, il fait très téléfilm aussi, un hein, couple modèle.
Ouais,
enfin, bon,
mais il fait téléfilm de luxe.
Ouais, c'est...
On se comprend. Ouais, pour moi, entre Cimetière et Salem. Toi, ça aurait
ouais,
été quoi, ta zone?
Baf. J'aurais hésité à le mettre en dessous de Salem. Parce que Salem a quand même des éclats d'idées de réalisation, mais effectivement, il est beaucoup plus inégal, donc je pense que... Enfin, je suis assez d'accord avec ton avis. En dessous de Cimetière, mais pas tellement, parce qu'il est mieux sur le plan de la réalisation, sur le plan du jeu et compagnie. Cimetière n'est pas forcément mieux, c'est juste l'histoire, là, pour le coup, qui va faire la différence.
Voilà,
l'histoire de Cimetière est supérieure.
Oui, carrément, oui. Et puis même en réflexion que pour la chambre 1408, pour le coup, je préfère revoir Cimetière... que Bon Ménage, que couple, qu'un couple
oui,
parfait.
Pareil.
Du coup...
Donc, ouais. Quatrième position, derrière Cimetière, devant Salem.
Moi, ça me va.
Le fléau garde toujours sa dernière place.
Qui, de coup, devient huitième et non plus septième.
Et donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que nous avons à dire sur ce livre et sur ce film.
Ça fait du bien, de moins, de voir deux bons films.
Ouais, c'est vrai que d'affilée, on a eu deux titres, un très bon film et un plutôt raisonnable.
Un film sympathique, voilà, ça fait du bien. Après Les Enfants du Maïs et Le Fléau. Mais je pense qu'il est grand temps.
On va voir si cette série continue.
Il est grand temps de tirer. Ah, je commence ?
Ouais.
Cette fois-ci, c'est moi qui commence. Vais-je avoir la main chanceuse ou pas ?
Alors, je préviens que j'ai rajouté Dans les hautes herbes de Vincenzo Natali à la boîte.
Qui est sorti sur Netflix.
Ouais.
Alors, je ne connais pas du tout. Quicksilver Highway de Mike Garris.
Ouais. Déjà, c'est de nouveau du Mick Garris.
Un segment adapté de Le Dentier Claqueur. À toi de tirer. Encore des trucs obscurs, quoi.
Alors.
J'ai le cœur qui bat. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ?
Dreamcatcher de Lorenz Kasdan. On va parler de caca !
Oh non ! Oh non ! Oh non ! Alors, Dreamcatcher, bon. Pour vous indiquer, cher auditeur, je ne l'ai pas lu. J'ai vu le film, qui était bien catastrophique, mais je ne l'ai pas lu.
Ah bah, oh, tu vas te marrer.
Oh, j'ai hâte, j'ai grand hâte.
Un titre qui va être très intéressant à aborder. Donc on se retrouve dans deux semaines pour Quicksilver Highway et donc Le Dentier Claqueur, la nouvelle. Et dans un mois pour Dreamcatcher, préparez-vous, ça va être Paul Clos.
Où est-ce qu'on peut se retrouver entre-temps ?
D'abord, on peut se retrouver sur Twitter, @cinémarchiviste pour moi et @augrédesbulles pour toi.
On peut également nous retrouver dans d'autres podcasts, Casse sur table qui traite comics, manga, bande dessinée, ainsi que La Guerre des Claques qui parle cinéma. Et il n'en revient pas d'avoir tiré Dreamcatcher, il est encore en train de se marrer.
Oui. Et on peut se retrouver aussi sur Discord, nous mettrons le lien dans la description. Et sur ma chaîne YouTube, Archiviste du cinéma, on parle surtout de cinéma asiatique. Donc voilà, c'est... En attendant, on vous dit à bientôt, et rappelez-vous que le Vidéoclub de Castle Rock
est ouvert 24h sur 24,
7 jours sur 7. A plus.
Salut.